Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Bleu.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
On a encore une belle émission parce que je crois savoir que ton invité de la première demi-heure rentre dans le cadre de ma passion.
Dans le théâtre.
Eh oui.
On va recevoir la dramaturge Lydie Dubuisson qui va nous parler de sa pièce Sanctuary, ou bien Sanctuaire en français. Mais la pièce sera la première, le démarrage même du 50e anniversaire du BTW, le Black Theatre Workshop, qui commence demain.
Oui, et dans la deuxième partie de cette émission, avec Mathieu Tessier, qui est chroniqueur avec nous régulièrement et qui travaille à Vues et Voix, nous allons parler du Festival de l'Art Souterrain de 2020, si je ne m'abuse. Donc, on part en musique, Fulgence ?
Tout de suite, déjà. Ok, d'accord, comme d'habitude. Avec Teddy Swims et Thomas Rhett. Et la pièce est broke.
Tu dis bien ça. I'm so used to being broke.
C'était Teddy Swims avec Thomas Rhett et avec Brooks.
J'ai oublié de dire que je travaillais de chez moi encore aujourd'hui et franchement, j'étais en train de danser là, c'est très très bon.
Dommage que je peux pas te voir.
Mais maintenant, je danserai dès que je reviens.
Comment défier une religion qui nous a toujours guidés, se révéler à soi-même si cet aveu de renoncement déçoit la communauté qui nous a vu grandir et qui a déjà tracé notre avenir. On est avec nous au téléphone. Elle a reconnu cette phrase, ce petit paragraphe que je viens de lire, ça c'est sûr. Lydie Dubuisson, bonjour et bonne année.
Bonjour, bonne année à vous également.
Comment allez-vous?
Ah, on se maintient, on se réveille et on survit la journée.
Oui, et comment on se sent déjà à la veille de son événement? C'est un grand événement pour vous quand même. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Lydie Dubuisson, oui. C'est une dramaturge. Sa première pièce, première collaboration avec le Black Theatre Workshop, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez si je me trompe.
Bah, Brother, celle-ci, ce serait ma deuxième collaboration.
Deuxième collaboration, oui.
Festival Discovery Series avec le Black Theatre Workshop.
OK. Alors, ça va commencer demain avec votre pièce Sanctuary. Ça veut dire sanctuaire en français, mais demain, ce serait en anglais et en créole.
Exact.
Parlez-moi un peu.
Alors,
faites-nous un peu la description de vous-même d'abord. Le théâtre, là, c'est venu comment? À la maison, on ne faisait pas du théâtre. Hein.
Après ça, à la maison, on avait accès au théâtre religieux. Parce que quand même, c'est quelque chose qui est très inclus.
J'aime ça, théâtre religieux, voilà.
Alors moi, j'ai grandi un petit peu avec ça, mais c'était mes sœurs qui étaient un petit peu plus âgées que moi qui avaient eu l'occasion de participer à cette... quand il y a eu une effervescence dans notre communauté religieuse et que là, c'est ce groupe-là y a eu accès.
Oui.
Puis la personne qui s'en est occupée, j'ai l'impression, s'est découragée et ma génération y a eu moins eu accès.
Oui.
Mais c'est ça, donc j'ai vraiment grandi plutôt dans la musique. Et moi, c'est plutôt ce que j'ai réalisé rapidement, c'est que j'aimais beaucoup le processus de répétition. J'aime vivre backstage, dans les coulisses, la préparation d'une œuvre. Et plus j'avançais à la vingtaine, quand j'ai quitté le foyer familial, bon, j'ai tout de même travaillé parce que j'avais très peur de ne pas être indépendante. Donc, j'avais toujours un travail de jour. Et le soir, je chantais avec le People's Gospel Choir.
Oui.
Et un jour, dans Fil en aiguille, j'ai eu une audition pour une comédie musicale. Alors, j'ai commencé à faire du théâtre communautaire de cette façon-là, mais toujours avec la musique au milieu. Et c'est seulement au fur et à mesure que je faisais du théâtre que je me rendais compte à quel point que le pouvoir d'éduquer, de transmettre des histoires avec le théâtre, mais j'avais beaucoup de difficultés à voir comment faire quelque chose de solide et pas de dire honorable, mais je ne voulais pas être une entertainer. Je voulais vraiment travailler dans quelque chose qui nourrissait également mes propres valeurs. Donc oui, j'aimais beaucoup le faire de la comédie musicale, mais c'est quand j'ai croisé en effet le Black Theatre Workshop en 2004 et que là, j'ai finalement rencontré des créateurs noirs et que j'ai rencontré des metteurs en scène noirs. Et là, j'ai fait... Ça m'a comme fait réaliser que je ne suis pas obligée nécessairement d'être sur la scène. J'ai le droit d'être également dans les coulisses à temps plein, d'écrire et de réaliser. Donc, c'est ça qui m'a poussée à faire mes études seulement à la trentaine. Parce que moi, j'ai vraiment pris mon temps à la vingtaine. J'ai exploré, je me suis amusée. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de théâtre communautaire, j'ai voyagé. Puis après ça, quand je suis revenue à Montréal, je me suis dit, bon, je me lance, je vais à l'université, je veux figure out c'est quoi la... Qu'est-ce qu'il y a de si élitiste qui rend le théâtre éloigné parce qu'on a la difficulté à voir comment on va pouvoir payer notre vie en faisant du théâtre
Je m'apprêtais à vous demander comment les parents ont réagi. Est-ce qu'ils se sont dit, Lydie, oublie ça parce que tu peux gagner ta vie avec ça?
Ben absolument, c'est sûr.
Oui.
c'était bon. Et bon, ma mère disait, je vais continuer à prier pour toi, éventuellement tu vas voir la lumière. Ouais. Maintenant, c'est quand même, mais maman, la lumière, elle est là.
Elle doit être fière de vous. Hein.
Quand même.
Ah, oui.
C'est toujours drôle quand que les parents qui t'ont averti de faire l'inverse, mais quand ça fonctionne, c'est alléluia. Bravo.
Oh, voilà.
quand je vous écoute, j'ai tellement hâte, mais tellement hâte de pouvoir remettre les pieds dans un théâtre. Ça me fascine. Oh. C'est toute une ambiance. Donc,
j'avais pas réalisé à quel point que c'était un sentiment tellement merveilleux. À chaque fois que je rentre dernièrement dans les quelques théâtres que j'ai eu le droit de rentrer parce qu'on travaille encore en petit développement, mais mon Dieu, je crois qu'on est il y a toute une communauté qui a hâte d'exploser, de rentrer dans un théâtre, de s'asseoir et de nous sommes là.
Oui, théâtre, cinéma et autres, les spectacles en salle. Oui. Arlette, vous voulez rajouter quelque chose, oui?
Non, je voulais juste dire qu'on a. On a plus, aujourd'hui, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule. J'ai plus conscience de la magie du théâtre parce que j'en suis privée. Voilà.
Lydie, je vais vous faire une confidence. Hein.
Oui.
Ma collègue Arlette ne peut pas vivre sans théâtre. S'il n'y a plus de théâtre, je pense bien qu'elle va... Je ne sais pas.
Non, je vais pouvoir quand même vivre.
Voilà. Alors Lydie, comment on se sent déjà quelques heures de la représentation de sa pièce? Est-ce que ça s'est bien passé les préparatifs? Et puis sans oublier, je signale en passant que vous êtes aussi une boursière du Conseil des arts et lettres du Québec cette année.
Oui, et vraiment c'est ça que vous me demandez comment je ressens à la veille et comment se passe le développement. Et de rajouter justement cette cerise-là sur le sommet qui est boursière du Conseil des arts et lettres du Québec qui me donne le confort de vraiment vivre l'expérience. Moi, je suis rentrée dans le milieu en me disant, en me résignant que ma passion allait me faire continuer à travailler, même si que je devrais peut-être maintenir mon travail que j'avais en tant qu'administratrice à l'hôpital pour enfants, au cas où, parce que j'ai quand même une famille que je veux m'occuper. Mais quand on finit par finalement percer ce mur de verre, de pouvoir être reconnu en tant qu'auteur et de savoir que le conseil nous supporte avec le budget nécessaire, non seulement pour avoir le temps d'écrire, mais pour avoir le temps de faire ce qu'on fait actuellement, qui est de développer. Et ça fait plus de 7 jours qu'on est assis, l'équipe, la distribution, on dirait qu'elle m'est donnée du ciel. J'aurais jamais imaginé que j'aurais pu avoir cette qualité d'acteur qui vient simplement pour travailler le texte.
On va en parler. On va revenir sur ça. Comment vous avez pu mettre la main sur tous ces collaborateurs?
Les fonds que j'ai fait quand j'ai vu les noms, c'est ça le privilège qu'on se rend compte que il y a un mythe où est-ce que l'auteur travaille seul dans son petit coin, puis qu'il sort avec un chef-d'œuvre après quelques heures, quelques journées ou quelques mois de réflexion intense. Alors qu'on se rend compte que la grosse partie de la magie, c'est la collaboration, c'est de donner le texte.
Oui.
Et là, moi, j'ai passé la semaine à être en caméra off et sans micro, mais être présent avec l'équipe, où est-ce que j'ai dit à l'équipe, si vous ne dites pas mon nom, je ne suis pas là. Et c'est parce que moi, ça me permet de réaliser l'effet de mes paroles sur papier. Qu'est-ce qui arrive quand un metteur en scène externe ou des acteurs qui n'ont rien à voir avec mon expérience travaillent avec mon texte? Et c'est là que je peux voir qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai réussi.
Qu'est-ce que vous avez réussi?
Et ça, ça a été un privilège. Vraiment, Black Theater Workshop, jusqu'à maintenant, je suis like, I'm living the life.
Ouais.
C'est merveilleux.
Lydie, est-ce que Lydie peut se bomber la poitrine en disant, je suis une artiste professionnelle?
Finalement. Finalement, je le prends, oui.
Oui. Lydie, allez-y rapidement et puis on va aller en pause musicale et puis on revient, on va continuer pour terminer la conversation afin qu'on puisse revenir sur la présentation.
Mais je sais que de plus en plus de personnes racisées se prennent ce titre-là. Parce que c'est un titre qu'on a de la difficulté à s'approprier, mais mon Dieu, qu'on se l'approprie quand on est artiste.
Oui.
Bravo.
Bravo. Félicitations. À tout à l'heure, on écoute, on va en musique. Avec, Black Eyed Peas et puis Shakira en complicité, Girl Like Me. Hey, yeah. Hey, hey. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me.
Latinas. Hey, I want a girl like Shakira. Hey, esa latina está rica. Una familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya all of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero una chica que no me diga mentiras.
So they tell me that you're looking for.
Así eso es.
Piece of the big manzana.
So they tell me that you're looking for a girl like me.
Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Ay, you're looking for a girl like me. Me llevas en tu mente. Soy adictiva como el azúcar. Me buscas permanentemente. Yo ves que solo quiero jugar.
Oui, c'était Black Eyed Peas et Shakira, Girl Like Me. Sanctuary, oui. C'est une discussion féminine entre une adolescente et sa sœur, sa marraine, sa meilleure amie, son pasteur et Dieu. Elle se réfugie dans le sanctuaire de son église à la recherche de réponses sur son avenir. Lydie ?
Oh là là, grande question.
On vous écoute.
C'est une réflexion que j'ai toujours su que j'allais partager éventuellement.
Oui.
C'est basé sur, parce que j'ai quand même grandi moi-même dans une famille évangéliste, très conservatrice, à l'intérieur de, au Québec contemporain des années 90. Donc, c'est vraiment, je n'ai pas placé l'histoire dans les années 90, mais ça, pour moi, ça m'a permis de réaliser à quel point que, on peut être dans une société très contemporaine, mais notre vrai cercle à nous peut être totalement à l'opposé de la société dans laquelle on vit.
Oui.
Et comment est-ce qu'on vit ce clash-là, cette espèce de confrontation-là entre les valeurs qu'on nous a données et le destin qu'on nous offre, alors qu'on a également un autre choix qui essaie qui est quand même à notre portée. Donc, cette jeune adolescente-là de 15 ans, elle se réfugie dans le sanctuaire de l'église dans laquelle elle a grandi.
Oui.
Pour essayer de comprendre son destin. Et c'est comme si la façon que j'ai choisi de revisiter des souvenirs que j'ai de justement de l'adolescence, de la pression qu'on a sur les jeunes filles avant même qu'on ait l'âge de 20 ans, nos décisions, nos choix, nos erreurs définissent qui qu'on va être. Et c'est incroyablement intéressant de regarder ça maintenant à cet âge-ci parce que je me dis, mon Dieu, 15 ans, c'est tellement jeune.
Oui, oui.
Ça, c'est vrai.
Arlette, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais je disais, c'est vrai, à 15 ans, on ne sait pas encore, on tâtonne et puis on nous demande
on est
d'avoir
tous
des idées, de connaître déjà notre avenir alors qu'on est à l'aube de plein de choses.
On est tous passés par là.
En mode
C'est comme choisir le cégep à un âge où est-ce qu'on savoir vraiment qu'est-ce qu'on va devenir.
Oui.
C'est ça. C'est tout à fait ça.
Dans la distribution, je vois des noms ici, vraiment. La distribution, c'est Vlad, Alexis, Kevin, Shadia, Ki, Konjo, Martha, Mireille, Mételu, Sister Anita, Espoir, Sigmaïa, Claudia, et puis dans l'équipe, c'est qui? Tamara Brown, mise en scène, Lydie Dubuisson, dramaturgie, bien sûr, et Daniel Skin, régie de plateau. Comment vous avez mis main sur toutes ces grosses têtes-là?
Ça, j'avoue, c'est vraiment le travail. C'est le merveilleux d'avoir le panache de Black Theatre Workshop qui nous supporte.
Ouais.
Parce que ça donne tellement accès à un merveilleux réseau et je sais que les artistes ont confiance quand ils sont approchés par le Black Theatre Workshop.
Oui.
Et moi-même, le fait d'avoir été choisie pour cette série de lectures, mais pour entamer la 50e saison, pour moi, c'est énorme.
C'est un honneur.
Et je suis tellement contente d'avoir la distribution que j'ai réussi à décrocher. Et vous ne serez pas déçus. Ceux qui vont se loguer sur la page Facebook de Black Theatre Workshop demain, ça va être un bel événement. Moi,
simultanément YouTube en même temps. On dit Facebook et YouTube, c'est ce que j'ai vu. YouTube aussi en même temps.
Exact. Ça va rester sur le channel YouTube de la compagnie.
C'est à quelle heure, Lydie?
Ce sera à 3 heures de l'après-midi.
Oui. Alors,
demain.
Oui.
Et si c'est raté, ce sera disponible encore sur la page YouTube de la compagnie pendant quelques semaines encore après.
Ok, d'accord.
Oh, c'est bien.
Voilà. Alors là, sincèrement, je ne sais pas. Quand je vois un peu votre parcours, cette affaire des rues du Jean qui ressort partout, 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 partout. Le premier jour de son premier spectacle parascolaire auquel elle avait participé en cachette, sa maison a été tragiquement détruite par un incendie.
Oui, oui.
Punition, 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 punition. Dans ma tête, j'avais péché, se souvient-elle. Lydie.
C'est vraiment... Mais c'est les choses de la vie, hein. ça marque. Je me souviens tellement, j'étais en secondaire 3.
Oui.
Puis je venais de faire le premier spectacle. C'était la première fois vraiment que j'étais sur scène. Et j'avais fait du gospel en plus. On avait fait une reprise de Sister Act. Et j'étais sortie de l'école et ma sœur attendait dehors. Et elle m'a dit, rentre dans la voiture, il faut que je t'amène à la maison. Habituellement, je prenais l'autobus scolaire. Ça, c'était comme, oh, l'église était au courant que j'avais fait un spectacle et là, je savais que j'avais des problèmes. Et là, elle me dit, non, la maison passe au feu. Et là, je me rends compte que, oh, c'est même pas l'église qui va être fâchée après moi. Dieu est fâché après moi. Et c'était... Ouais, c'est vraiment la pression qu'on se met quand on a des attentes qui viennent de notre société et des fois des attentes qui viennent du surréel et de l'au-delà.
Wow.
C'est fort parce que ça donne l'impression d'être... Ouais. Je comprends que vous ayez cru à ce moment-là que c'était une faute divine.
Oui, oui.
Oui, oui. Vraiment, oui. Le corps de la jeune fille ne s'expose pas pour faire plaisir à un auditoire. Non, c'était vraiment... Moi, j'ai grandi d'une façon où est-ce que ta voix, elle appartient au dimanche matin pour donner la gloire à l'Éternel. Non pas pour commencer à... le entertainment, c'est comme la pire chose qui peut arriver à une jeune fille.
Oui.
Donc, même si que je chantais du gospel sur scène, j'étais consciente que je ne le faisais pas pour... c'était pas dimanche matin. Et que c'était pas la même chose. Et j'étais consciente que je faisais... Et je le faisais en cachette. Mes parents ne le savaient pas. Donc, c'était vraiment... pour moi, c'est un drôle d'événement. Ça m'a peut-être détourné justement de mon parcours. Parce que l'école secondaire m'a quand même donné un trophée d'artiste de l'année quand j'ai gradué. C'était un petit peu leur façon de dire « lâche pas ».
Lâche pas, lâche pas. On termine tout doucement la conversation, l'entrevue. Oui. À l'orée de ses 40 ans, après avoir obtenu cette bourse du Conseil des arts et lettres du Québec pour le développement de ce projet, Lydie dit « Je me suis réveillée le matin de mes 40 ans avec la plus belle validation de ma vie. »
Bravo pour ça.
Oui.
Un dernier mot rapidement. Il nous reste une minute.
Je crois que ce que j'aimerais partager, c'est pour des gens... Je sais que c'est fun de penser qu'on est capable de réussir tout seul,
oui.
Mais c'est bien également de briser les murs pour pouvoir avoir le support nécessaire. Et je crois que c'est la leçon que j'ai appris quand je dis que c'est la plus belle validation, c'est que ça validait pour moi que c'est possible. Parce que c'est incroyablement difficile de s'imaginer d'être supporté par une province, par un réseau, pour dire qu'est-ce qu'on a raconté. Et longtemps, j'ai cru que ce que j'avais raconté intéressait personne. Et maintenant, je me rends compte que non, il n'y a personne qui raconte qu'est-ce que j'ai raconté. Ça donne l'importance. Alors, je suis contente que le Conseil des arts a reconnu que cette histoire-là devrait être racontée, qu'ils l'ont supportée, et j'ai hâte de voir le résultat demain.
Merci au Conseil des arts. Merci à toi, Lydie Dubuisson.
Merci pour l'accueil.
Bon show, bien chaud, bon show, très bon show demain. Bonne année encore.
Merci.
À vous et à vos enfants. Et puis, au plaisir de vous retrouver ici après ce spectacle plus tard pour un autre spectacle. Et puis, portez-vous bien surtout et bon show demain. On sera avec vous.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci. Bye bye.
Bye.
M'entends-tu quand je te parle pas? Si je ne suis plus ici, je suis pas toute là. Attends-moi. 3 semaines ou 6 mois, au bout de mes peines, l'envie de m'ouvrir les bras.
Esprit, fais-le.
Parfois j'entends des voix,
fais-le.
Mais j'entends jamais la tienne.
Jamais.
Quand vient le temps de défendre mes droits,
t'es où? ou juste d'apaiser mes peines. Si on me tend la main, c'est qu'on pointe du doigt. Si on m'ouvre les bras, on me paye une croix. Je suis marqué au fer, fou, j'avoue, un moral de verre. Je prends des risques, je prends des coups sous mes cernes. Le poids du monde, je discerne à peine. Le bien du mal, les pieds dans le ciment, le cœur en cavale. Tu vois de quoi je parle?
Tu vois de quoi je parle?
De la poussière des yeux, comme au fond des poches. Je me sens si loin de mes proches. L'avenir m'évite, les nerfs à vif. Faut que ça change, puis vite.
M'entends-tu quand je te parle pas? Si je ne suis plus ici, je suis pas toute là. Attends-moi trois semaines ou six mois au bout de mes peines.
Barraquin, Nelly Ga, Alice Robin, Nelly Arca. Tu m'admires quand ma folie embrasse le génie. Quelque part entre le réel et le déni. Tu connais la séquence suite de séquelles au département des surgelés. De Saint-Jean-de-Dieu à Pinel. On sauve le cœur ou les veines à l'opinel. On sauve le cœur ou les veines à l'opinel. Depuis tout le temps, sacrifié par l'opinion. Pourtant, on crève, on souffre, on fait toujours plus de mal à nous-mêmes. Plus de place pour le fond du village. C'est de même, un jour de pluie. C'est tout, juste un autre jour de pluie épuisé au fin fond du trou.
M'entends-tu quand je te parle pas? Si je ne suis plus ici, je suis pas toute là. Attends-moi trois semaines ou six mois au bout de mes peines.
Grand malade, en meilleure santé que moi. Parti sur un trip, revenu sur un flat. Une dose de trop, ma bulle éclate. À force de m'en faire, je m'enferme. Je m'en fâche, je m'en fous, je m'enfuis. Dans la boue, dans la marge, jusqu'au cou. Tout croche, sans appui, je tiens debout. Mise à l'écart, ici comme partout. Enchaîné aux pilules, aux brancards ou à un arbre. Toujours trop encombrant, mais quel bruit fait une âme en tombant.
Ouais, c'était David Godreau avec la complicité de Florence K. Mental malade. Restez à l'écoute, on vous revient après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Alors, je sais que vous avez hâte que l'on parle d'art souterrain avec Mathieu Tessier. Ça ne saurait tarder, restez avec nous. Mais pour l'instant, on part d'abord en musique avec le groupe LEJ qui nous chante les mots noirs.
Ma chaise, tu faisais débat, j'écoutais pas. Sur la fenêtre coulent mes rêves. Tu parles d'avenir en jour de grève. T'imposais que mon cœur se taise. Rester planté là, je pouvais pas.
Comme le temps passe, il faudrait recommencer tes conseils, tes balades. Tout ce que tu peux penser, tes mots noirs de connasse. Je préfère les embrasser, je préserve.
Galère, tu parles d'horaire, maigre salaire. Le compte, le cœur a découvert. Vivre sous contrat, moi je sais pas.
Moi je m'étais promis la lune de chanter des chansons de lutte. T'es en montrant ceux qui m'insultent. Ta morale d'adulte, moi j'en veux pas.
Comme le temps passe, il faudrait recommencer tes conseils, tes balades. Tout ce que tu peux penser.
avancer tes mots noirs de connasse. Je préfère les embrasser, je préserve mes silences étouffés. Ça y est, j'éteins la lumière. Tu veux une histoire, une dernière? Regarde sous ton lit, pas derrière. Tu sais, les vrais monstres, c'est pas ceux-là. Les souvenirs qui se bousculent, autant de leçons ridicules. Tombé de ma chaise à bascule, et si elle s'envole, m'en voulait pas. Comme le temps passe, il faudrait recommencer tes conseils, tes balades. Tout ce que tu peux penser, tes mots noirs de connasse. Je préfère les embrasser, je préserve mes silences étouffés. Comme passe, il faudrait recommencer mes conseils, mes balades. Tout ce que j'ai pu penser, mes mots noirs de connasse, qui les aura embrassés.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On va, grâce à toi, rêver un peu avec l'art souterrain ou le festival d'art souterrain. Donc,
exact. Je vous propose en fait de venir enrichir votre vie avec des œuvres ou par des œuvres qui rassemblent et apaisent.
Ah ben, on en a bien besoin. C'est
pas oui. Alors laissez-moi vous prêter.
Oui.
Laissez-moi vous prêter mes yeux afin de visiter l'exposition Habiter demain, présenté dans le cadre du Festival Art Souterrain qui met en valeur les acteurs du milieu de l'art contemporain et les artistes, mais aussi l'architecture et le patrimoine culturel de la ville souterraine de Montréal. C'est une exposition qui est virtuelle et qui est prolongée jusqu'au dimanche 17 janvier. Donc, c'était une exposition qui a eu lieu en 2020, mais ils ont rajouté deux semaines, donc vous avez jusqu'à dimanche pour aller visiter ces œuvres. Œuvres de 8 artistes, dont Stéphie Bélanger, Karine Payette, Philippe Allard, Michel de Brouin, Annie Descoteaux. Il y a aussi le collectif COSIC, dont fait partie Monique Brassard et Yvon COSIC, et le collectif Pierre et Marie, où on retrouve l'artiste Pierre Brassard et aussi Marie-Pierre Lebeau. Que diriez-vous si je vous parlais de l'œuvre, par exemple, de Stéphie Bélanger? Il faut savoir que toutes les œuvres présentées dans le cadre de l'art souterrain, pour la plupart, ben, en fait, pas pour la plupart, cette année, ils sont tous des installations sculpturales, ce qui est souvent le cas dans le cadre du Festival d'art souterrain. L'œuvre s'intitule « L'utilité de l'inutilité ». Quand le panneau ne décrit pas l'œuvre, je vais vous la décrire. Sur le panneau, on peut lire « se bercer, pivoter, danser ». Des mouvements tendres et subtils, mais qui peuvent s'accélérer lorsque le cœur nous en dit. Le tissu se déplace dans l'espace, porté par ses gestes. Il virevolte et danse gracieusement, d'une légèreté qu'on envie parfois. Ces œuvres, donc, portent une idée de mélancolie, et elle amène à ce qu'on les contemple à l'image d'un feu de camp. Stéphie Bélanger vit et travaille à Montréal. Sa pratique repose en fait sur l'hypothèse que l'objet d'art est fondamentalement et heureusement inutile. De là le titre « L'utilité de l'inutilité ». Et à l'aide de sculptures que l'on peut normalement, je dis bien normalement, manipuler, ainsi qu'avec l'aide de performances, elle nous propose toujours une lecture comique et romantique de l'objet infonctionnel. Elle a été lauréate d'une bourse du Conseil de recherche en sciences humaines. Elle a exposé un peu partout, dont à Laval, à la Galerie Fofa de Concordia, mais aussi au Centre-Vue et à l'Œil de Poisson. Alors, sa sculpture ou sa proposition se décline en trois sculptures. La première, la sculpture me rappelle un rouet. Un immense rouet fait de métal bleu, mais au lieu d'y enfiler la laine, l'artiste y a enfilé de petits rideaux blancs, presque transparents. Et puisqu'il s'agit d'une roue, c'est un rouet, on peut très bien s'imaginer faire tourner la structure et ainsi voir le tissu flotter, réagir au vent. C'est pourquoi dans le texte explicatif du panneau, on parle de se bercer, pivoter, danser, des mouvements tendres et subtils. La deuxième sculpture, elle nous rappelle une bascule. Donc, imaginez une échelle, toujours faite de métal bleu, couchée sur le sol, mais courbée, comme un sourire. Et aux deux extrémités de l'échelle, on voit des disques en bois, comme des sièges de tabouret, sur lequel on a vivement une grande envie de vouloir s'y asseoir, mais l'angle donné à l'échelle ne nous le permet pas. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire basculer la sculpture et de sourire en la regardant. Encore là, c'est inutile. Et la troisième nous rappelle un support à veston complet. Vous savez, les trucs sur lesquels on peut poser un veston et à l'intérieur, il y a une barre où on peut déposer le pantalon. Donc, la troisième sculpture, c'est comme un support à veston complet. Toujours fait de ces fines, tiges métalliques bleues, et le tout installé sur des ballons de chaises berçantes. Et au centre, se rapprochant du sol, ce qui s'apparente à un foulard d'une couleur rose tendre, et encore là, on peut s'imaginer la sculpture se berçant et faisant flotter son corps diaphane. C'est très ludique, les œuvres de Steffi Bélanger. Et encore là, c'est une visite virtuelle, je ne les ai pas vues en vrai, mais on a vivement envie de... Je peux comprendre que dans les autres expositions qu'elle a faites, on avait droit de manipuler, donc de faire balancer, de faire bercer. Mais évidemment, puisque c'est une exposition virtuelle, on n'y a pas droit. Deuxième artiste, Karine Payette, qui vit et travaille à Montréal. C'est encore une installation sculpturale et elle s'appelle « Espace sans espèce ». Numéro 4. À partir de l'observation attentive des dispositifs zoologiques, de l'arpentage d'espaces désertés du biodôme à l'occasion de sa rénovation et de la lecture d'ouvrages sur le conditionnement animalier conservatoire, j'aime bien cette phrase, le conditionnement animalier conservatoire, elle a nourri ses nouvelles recherches, interrogeant notre rapport au vivant et notre appétit émerveillé par son exhibition. Alors, jouant avec le fantasme d'une rencontre inédite et privilégiée avec l'autre animal, elle met en œuvre un art savant de la frustration. Karine Payette a élaboré cette expérience où s'entremêlent le devenir de la sculpture hyperréaliste, les systèmes d'exposition artistique et technique, ainsi que les enjeux actuels de la conservation du vivant. Et ce qu'on peut voir quand on regarde la sculpture, ça ressemble à une grosse cabine téléphonique. En fait, c'est un peu plus gros qu'une cabine téléphonique, donc c'est une structure dans laquelle nous pourrions facilement entrer. Au sol, il y a de la terre noire, de la terre brune, une terre riche, il y a de grosses pierres, de grosses roches et quelques plantes d'environ une trentaine de centimètres. Il y en a environ 6-7. Et au centre, suspendu par ses deux bouts, ce qui ressemble à une liane ou encore une grosse branche d'un lierre, et au plafond de ce vivarium, de la végétation rappelant des fougères ou des plantes équatoriales ou des plantes qui viennent d'un pays chaud. Karine Payette est née en 1983 à Montréal. Elle vit, elle est titulaire d'une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. Et les installations, les sculptures et la photographie ont toujours fait partie de son langage. Et la figure de la demeure est centrale dans la pratique de l'artiste qui aborde de façon imagée l'adaptation constante du confort dans un monde en perpétuelle transformation. Je vais relire cette phrase. Aborde de façon imagée l'adaptation constante du confort dans un monde en perpétuelle transformation.
De la poésie pure et simple.
Maintenant que tu nous as bien fait rêver, on va partir en musique et oui. On revient avec... plein de questions pour toi. Et on part avec Benjamin Biolay réinterprète tous les cris, les SOS, la chanson de Daniel Balavoine qui avait été chantée ici au Québec par Marie-Denise Pelletier.
« jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse. Dans un dernier espoir, disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des liens noués de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs. Dans l'eau laisse une trace dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des liens noués de tresse.
Mathieu, on va continuer à t'écouter, nous en parler, mais je dois te dire une chose pour ma part. Mm-hmm. Tu m'as laissé entre, j'ai envie de dire entre deux eaux, c'est-à-dire que un côté de moi a très envie d'aller voir avant que ça se termine cette exposition en virtuel, oui. Et une autre partie de moi pleure parce qu'elle aura envie de les voir en vrai.
Oui, oui. Ben, écoutez, je pense que c'est un moindre mal en ce moment. Je trouve que c'est une belle initiative qu'ils ont tout de même gardé les œuvres et ils nous ont permis de les visiter. Le site nous permet que des photos ne nous permet pas de faire le tour, sauf une œuvre d'Annie Descoteaux dont je vais parler. Mais oui, effectivement, c'est une des choses. On parlait de théâtre en début d'émission. Oui. Eh bien, moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est faire le tour des galeries d'art, des petites galeries comme des grands musées. Mais voilà, prendre son mal en patience.
On attend. Et en attendant, on peut faire du virtuel, ce qui est déjà fantastique.
Oui,
il faut le dire. Mathieu,
Oui, je suis là, Fulgence.
Arrête là. Bon, puisque tu as déjà visité... Non, toi, tu l'as pas... Non, tu l'as vu aussi virtuellement. Hein.
Oui, oui, cette exposition n'est que virtuelle.
Oui, oui, oui. Pandémie oblige. Voilà. Quel est le conseil que tu donnes à ceux comme moi qui n'ont... Moi, j'aimerais bien, c'est jusqu'au dimanche, hein, il faut que je... C'est oui. Combien? C'est une heure de visite ou bien une heure et demie ou bien 45 minutes, c'est combien de temps?
C'est autant de temps que vous voulez. En fait, c'est que vous allez sur le site artsouterrain.com,
oui.
/événement, oui. /habiter-demain, donc le nom de l'exposition. Donc artsouterrain.com, événement habiter-demain. Et ça vous amène sur une page qui ressemble étrangement à Google Maps où vous avez les 10 œuvres en miniature, vous cliquez sur chacune des images oui. Et on vous amène directement sur l'œuvre. Et les œuvres sont placées dans l'architecture souterraine.
Comme un GPS, quoi.
Oui, à peu près.
Exact. Comme ça, de ce genre. Wow.
Exact.
Génial.
C'est très, très beau à voir quand on peut le voir, mais ça doit être beau aussi à voir en virtuel. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait attiré ton attention?
Oui, il y a Michel de Brouin. En fait, quand on regarde... La sculpture, aux quatre coins ou presque d'un plancher couvert de tuiles de couleur blanc cassé, six tuyaux de cuivre sortant deux par deux, formant ainsi quatre structures séparées. Avec un peu d'imagination, on pourrait presque s'imaginer que ce sont les coulisses de quatre trombones qui sortent du sol. Mais ces tuyaux, au lieu de sortir, de former un arc et de revenir paisiblement, forment d'étranges nœuds. Alors, c'est une installation qui s'appelle « La conduite des conduites ». Je vous lis le texte. « Les anomalies proposent des remodelages ». En fait, ça, c'est le nom c'est le deuxième nom de l'exposition, je pense, de l'œuvre, pardon, « Les anomalies ». « Proposent des remodelages de conduites de cuivre, des objets communs que l'artiste représente pour déformer leur fonction attendue. Les courbes, les sinuosités des conduites mettent en tension des dynamiques de circulation, de résistance et de dissipation. » Voilà. Troublant les attentes des systèmes industriels et leurs promesses d'efficacité, d'optimisation et d'innovation, l'artiste imagine une technique très différente de celle que nous côtoyons dans notre vie quotidienne. Michel de Brouin vit et travaille à Montréal. Il est gagnant de plusieurs prix. Il a exposé au Musée d'art contemporain de Montréal, Musée d'art contemporain de Val-de-Marne en France, à Berlin, etc. Ce serait un peu long de faire sa biographie au complet, mais c'est un artiste qui est très connu. Ouais. Et la dernière dont j'ai le temps de parler aujourd'hui, c'est Annie Descoteaux, qui vit et travaille à Montréal. Son installation sculpturale s'appelle « Tabletop numéro 1 ». S'appelle Tabletop numéro 1 parce qu'il a été inspiré par le poème Object Lies on a Table, 1922 de Gertrude Stein. Alors, c'est un assemblage en bois peint posé au sol. Il se compose de formes tantôt libres de référent, abstrait si vous voulez, tantôt reconnaissables. À la fois collage et sculpture, ce mobilier, en pièces découpées par un robot mais entièrement peint à la main, pourrait témoigner des vestiges d'une main pressée et de joyeux chaos qui en résulte. C'est très... la base est blanche et sur le dessus de cette base-là, il y a des formes, on peut reconnaître un peigne, on peut reconnaître des œufs, on peut reconnaître ce qui pourrait s'apparenter à un miroir et d'autres formes, comme le texte le dit, qui sont libres de référent. Et comme je le disais, il a été...
Ça prend de la place, excuse-moi?
Non, c'est peut-être un mètre et demi par un mètre et demi sur moins d'un mètre de haut.
D'accord.
Et... comme je disais en tout début, l'ensemble donne l'impression... l'ensemble donne l'impression d'un rebut, en fait. Ça a l'air d'une grosse... une pile de... un sac à vidange qui s'est défait sur le bord de la route.
Ah bon.
Mais tout ça très propre, parce que c'est très blanc. Et inspiré par le poème « Object Lies on a Table », et emprunte aussi certains codes visuels à la bande dessinée. L'assemblage nous amène à deviner le poème, voir sa part d'impénétrabilité, et de ressentir ce qui est posé devant nous. Tabletop numéro 1 est un brillant exercice de remédiation. Ça, c'est la manière dont un artiste a de retranscrire une œuvre créée dans un autre champ artistique. Donc, elle a pris un poème, et elle l'a transposé en sculpture.
Oui, en art. Et,
exact.
Sculpture.
Un autre art.
Et toi, qui est là, alors, on n'a plus qu'une minute là, mais mm-hmm. je veux te poser cette question-là avant qu'on termine. Toi qui as l'habitude de ça, qui toi-même tu peins, tu vas dans beaucoup dans des musées mm-hmm. ailleurs. Comment tu l'as ressenti, le fait de le voir de cette manière-là? Est-ce que c'était aussi séduisant, aussi intense?
Non, c'est une bonne question. En fait, ce qui est difficile dans les expositions virtuelles, surtout quand on parle d'installations sculpturales et de sculptures, contrairement à la peinture où on est déjà plus habitué de voir des images en 2D, de voir des sculptures en 2D sur un écran, c'est là ma frustration. Oui. C'est là où je me dis, ah, j'ai hâte de pouvoir retourner dans un musée. Et parce que la représentation qu'on en a en ce moment en 2D ne nous aide vraiment pas, puisque sa nature même doit être vue.
Oui.
Nous oblige à la voir en 3D.
Oui. Alors, c'est 3D, au fait. Comme au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est en 3D. 360 degrés, même quelque
part. Oui, ben c'est ça. Mais là, ils ont fait le choix de le faire, de le faire en photo seulement. Mais en tout cas.
Une dernière question rapide, là, toi, Mathieu.
Oui.
Vite, parce que.
Oui. Est-ce que toi, tu comme tu fais aussi de la peinture, je viens de la prendre de la part d'Arlette, mm-hmm. est-ce que tu rêves voir tes œuvres là-bas les prochaines années de ce festival d'art?
Un rêve, non, mais qui sait.
Tu aimerais, on ne sait jamais, oui.
Faut travailler pour ça. C'est des gens qui travaillent fort. Moi, Annie, je la connais. J'ai déjà étudié en même temps qu'elle.
Elle n'a pas arrêté. Tes œuvres à toi aussi. Hein.
T'es pas le seul.
Je te vendrai, Mathieu.
Merci beaucoup, tout le monde.
Merci beaucoup,
à toi, Mathieu.
Merci plaisir. Pour cette chronique. Ouais. Et puis là, on part en musique. Donc, on part en musique avec Sonida Pesaro et Rebecca Lane qui nous chantent. Alors, écoutez bien. Nota do que brilla es oro. J'ai dit ça très, très mal.
Je ne savais pas qu'elle était une spécialiste en espagnol. Hein.
El dinero de los demás, por Jehová o el tipo del más allá. Mi mentira es perfecta, pues lo pude engañar. Soy el último recurso del enfermo. Soy ese feo que hoy te parece tierno. Soy lo que buscas para irte al infierno. Soy el perdón que tú buscabas para volar en los cielos.
Los que más te roban visten elegante. Presidentes, senadores, empresarios, comerciantes. Con una sonrisa piden que les vote. Llegan al poder y todos son unos fantoches. Para que brille el oro, dinamitan las montañas. Comunidades indígenas desplazadas. Presos políticos por culpa de las mañas de esos criminales de traje y corbata. Pisarme, escribiré verdades que les desarme. El ego como Lego luego vienen a chillarme. Puede ser cierto, puede ser falso, ¿a quién le importa? Los más santos son los que más mal se portan. Así que cuidado con lo que brilla. De lejos cualquier babosada se ve amarilla.
merci Mathieu Tessier, merci Maurice Boldu,
merci beaucoup
Fulgence,
Mathieu, merci
invité.
Beaucoup, merci beaucoup à Lydie Dubuisson, la dramaturge. Merci à toi Arlette.
À demain.
À demain, vendredi.
Pour notre dernière journée de la semaine.
Merci Maurice, oui, merci, et puis prenez soin de vous.
De notre semaine 2021.
Oui, la première semaine d'émission, c'est vrai, hein, c'est la première... C'est le premier regard croisé, hein?
Ouais.
Une semaine, quoi, je veux dire.
À demain.
À demain, allez, bonne soirée.
Au
ciao.
Revoir.
Michel.